Alors, avec une inversion dans le temps.
Oui. Très bien.
Nous avons donc la deux étapes. Deux étapes et cette invasion du rythme qui est un rythme naturel. Comme nous l'avons vu ce matin, il tend peut-être la main au-dessus du temps à d'autres rythmes naturels qui étaient sous l'univers saturnien, sur lequel nous avons quelque chose, sur un rythme qui est éventuellement comme corporel. On nous a parlé de rap ce matin aussi. Et puis nous avons ce goût pour des formes relittéralisées. Que l'on voit apparaître au Xe siècle. Le Xe siècle, c'est une époque d'invention omniprésente, avec l'influence à la fois de l'Antiquité tardive, de la langue des Pères de l'Église, d'Aldelme, ça c'est tout à fait intéressant de la retrouver, de modes liturgiques ou litaniques que l'on retrouve en hagiographie et notamment dans les villes saintes, je trouve déjà depuis Grégoire de Tours, et que l'on va retrouver dans ces réécritures du Xe siècle avec la litanie des vertus, peut-on dire, qui se trouve sous différentes formes, mais déjà avant Grégoire de Tours et chez lui. Et donc tout cet ensemble qui se présente dans une forme littéralisée au Xe siècle, mais toujours avec un but. Toujours avec un but, toujours avec un poids à mettre sur certains points, ce qui nous rattache au thème général de cette journée et de cette matinée. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole pour dire dans tout ce que je pourrais dire à propos de ce superbe poème à refrain. C'est vrai que ça me fera un peu. Imaginez reprendre à chaque fois au discours direct en plus ce qui est.
C'est étonnant, oui, mais c'est pour ça que je passais Isidore.
Ce qui est remarquable, enfin remarquable, non, ça existe aussi, mais enfin ce qui est extrêmement prenant.
Mais ça a dérouté le commentateur. Oui, le commentateur Vitali était perplexe. Passage à jeu, là-bas, ça.
Et pourtant, c'est ce qu'on va retrouver, même dans les plantes oui. Sur le manche d'Hector, ce qu'on va retrouver au XIe siècle, ça a bien pu exister avant. Hein. Et c'est normal que le refrain qu'on va retrouver dans les premières pièces de théâtre, hein. Souvent le refrain est au discours direct aussi. Donc il y a tout ce. Parce que le refrain, c'est le moment où on vous prend au trip, tout bêtement. Hein. Donc, je m'arrête pour. pour demander vos réactions à nos deux orateurs et à ces deux textes, trois textes, étonnants, dont on n'est pas étonnant, merveilleux de ça, qu'on nous a fait retentir.
Moi, j'ai une question tout de suite à Jean. Mais tu sais la date exacte de cette réécriture ?
Entre 915.
Oui, c'est tard. C'est tard. Parce que donc, et est-ce qu'on a la version mérovingienne ?
Ah oui, bien sûr. J'aurais pu vous montrer.
Tu sais, c'est la même affaire pour la Vita Ricari. Tu sais, quand Alcuin est chargé de réécrire la Vita de Saint-Riquier, il va au monastère qui est désormais le monastère d'Angilbert, et il demande à voir la vie du saint, et les moines lui apportent un tout petit texte. C'est raconté à sa correspondance. Un tout petit texte, et il dit quand même, pour un si grand saint, avoir un texte aussi court, et alors, moi je m'en suis servi pour vivre à Borchier, tout ça, et les moines disent, bon, ben, on a un autre texte, beaucoup plus long, mais il est vraiment écrit dans un latin dégueulasse, en fait. Mais ils ajoutent, ils disent pas comme ça, ils disent sermone rusticiore scriptus, un truc comme ça. Mais il ajoute que, et je me souviens plus du texte exact, mais il dit que c'est ce texte-là qu'ils lisent à l'église parce que tout le monde, les gens le suivent plus facilement. Or, ils rougissent de montrer l'état de la langue de ce texte à un maître, un professeur, un instituteur. C'est la même situation. Et alors on a la réécriture, effectivement. Sauf que là, on est il y a 100 ans d'écrit. C'est étonnant quand même.
quasiment deux siècles d'écart entre la première Vita et la réécriture.
Ça veut dire, il n'y a pas de traduction en, dans la région, les premières traductions en langue. Ça veut dire que...
Il y en a une au XIIIe.
Oui, ça veut dire qu'en fait...
Une traduction de la vie d'Étienne.
L'évêque est retiré de la circulation publique, là, c'est juste dire. C'est réservé au tout petit nombre de lettrés.
Ah oui, donc. Ça c'est sûr.
Non, je ne sais pas poser des questions naïves, parce que nous entendons une science en vous parlant. Là, vous avez bien montré, enfin, je parle des deux marchent très très bien ensemble. Donc, il y a cette poêle plus génétique, comme ça, cette espèce de passage avec toutes les subtilités. Vous avez montré de ce latin mérovingien vers les langues populaires, et puis. Cette excroissance réformatrice hein, qui évidemment s'écarte là, brutalement. Alors, du latin mérovingien, on a parlé après de Ludwig Slid, et puis en même temps de la cantilène de Sainte-Eulalie. Et comme on sait, c'est dans le même manuscrit de Valenciennes.
Oui, 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 oui. C'est le même rythme. Hein.
Alors, est-ce qu'on peut dire que cette rythmique. Vernaculaire, en somme.
S'il te plaît, romain. Non, mais je suis
pas sûr.
Ça n'est assez comme. Non, mais j'ai fait une communication à Fanjou intitulée La langue des esclaves, peut-elle parler de Dieu? Parce que vernaculaire, ça veut dire la langue des esclaves. Il ne faut pas parler comme les clercs. Allez, j'entends. Romain, c'est du romain.
Romain, bon. Alors, est-ce que.
Du point de vue. Je vous embête, mais pas tout. Je suis venu pour ça.
Du point de vue de cette. Rythmique, donc. De ces deux poèmes qui se retrouvent là ensemble pour un auditoire complexe. Enfin, il y a des gens qui peuvent entendre plutôt l'un, plutôt l'autre, etc. Est-ce que la rythmique est la même?
C'est ce que je n'ai pas compris.
Entre le Ludwig Slid
et oui, c'est le même rythme. C'est exactement
là, c'est la même chose.
Ah oui, oui. Là, il faudrait.
Parce que les langues, ensuite, il faut quand même se séparer.
Je le mettrai dans le. Non, si c'est publié, mais je donnerai un échantillon d'analyse du Ludwig Slid, à l'heure voix, c'est le même rythme. Oui. C'est vraiment le même rythme. Mais c'est quelque chose, j'ai vu que cet après-midi, il y a quelqu'un qui va parler de la disparition de l'organisation rythmique, et je suis curieux de voir ça. Parce que ce qui se passe dans l'histoire, c'est que l'accent du français change. Mais là, on est dans un monde. C'est pas l'accent parisien d'aujourd'hui, si je peux me permettre, ni celui du 19e, ni celui du. C'est vraiment un accent spécifique du 7e au 12e, 13e siècle, ce qui fait que le rapprochement est tout à fait justifié. Il y a vraiment une convergence, je crois.
Et donc, la séparation de ce point de vue-là
Alors, la séparation,
c'est action.
Oui, c'est-à-dire quand on se met à penser à un rythme différent la poésie, c'est au 12e, 13e peut-être, je ne sais pas. Oui. Mais là, on voit très bien, je ne sais pas, parce qu'après, il n'y a pas beaucoup de travaux qui ont été faits justement sur ces aspects-là, c'est-à-dire sur la mutation du vers français à la lumière de l'évolution phonologique. Ça, c'est un domaine de recherche qui n'a pas été beaucoup fréquenté. Mais là, au 8e siècle, je pense qu'entre les gens qui parlaient mérovingien du côté latin et ceux qui parlaient, je dirais, mérovingien du côté germanique, les intonations étaient très proches. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Et
la séparation se fait beaucoup plus tard. C'est vrai qu'à bien coup de la poésie allemande du 18e et de la poésie française, c'est vrai que la poésie française du 18e n'est plus rythmique du tout. Mais ça, je pense qu'il y a quelqu'un qui va me reste à parler.
Mais il y a quand même des langues aussi, des langues parlées.
Oui, mais là aussi, si tu sais, là aussi, c'est puisque tu parles de contact et tout ça, moi qui enseigne depuis très longtemps dans l'ancien français, quand je la liste de vocabulaire, les isotopies de mots forts qui sont franciques en français, c'est extraordinaire. Tous les mots, par exemple, de la passion ne sont plus les mêmes. La haine, la honte, c'est pas rien quand même. Une langue qui abandonne tous les mots clés. À l'isotopie forte des sentiments et de la guerre pour adopter la terminologie germanique. Imagine ce qu'il a fallu comme interférence. Tu vois, je trouve que ce n'est pas suffisamment mis en valeur dans l'histoire de notre propre. De l'état du français. Le français est une langue qui a beaucoup évolué, comme on le sait. Et là, on est vraiment un confluent culturel qu'il ne faut pas sous-estimer.
Umberti. Est-ce que c'est également sur lui le Carolingien? Est-ce qu'on sait concrètement au niveau liturgique comment, à quel moment on peut viser? Est-ce qu'on a des éléments de la performance?
Donc, en fait, Étienne de Liège a réécrit cette vita pour l'insérer dans un office complet de Saint-Lambert, pour la fête de Saint-Lambert. Et après, il y a une partie liturgique avec des antiennes, des ripons, etc. Mais alors, quelle en était l'exécution? Donc, on devait chanter, ou lire en tout cas, en faisant sentir le rythme de la prose de la vita, mais. Comment est-ce que ça pouvait se passer vraiment concrètement? Là, c'est difficile à dire. En tout cas, on a le manuscrit qui contient l'office complet, où la vita est insérée à l'intérieur, qui est un manuscrit qui est à Bruxelles, et où, pour ce qui est de la prose, il y a un point en haut qui n'a rien à voir avec une ponctuation, après chaque rime. Pas les rimes internes, hein, toutes les rimes finales. Ce qui veut dire que c'est vraiment ce qui devait ponctuer la lecture ou la musique qu'on pouvait mettre sur cette prose. Mais c'est tout ce qu'on sait.
Donc, il y a un point en haut, au moment où on va faire une pause de lecture, une pause dans la voix, hein, qui peut correspondre à la façon d'indiquer la pause. Alors, ce qu'on a généralement, et peut-être il y a aussi dans ce manuscrit, dans des textes qui sont destinés à être lus, et soit on vous indique le nombre de leçons dont le texte est découpé, soit lorsqu'on va les lire, si c'est le manuscrit avec lequel on va les lire, vous avez davantage d'accent tonique indiqué sur les mots un peu difficiles, hein, c'est-à-dire les proparoxytons, ou enfin les mots de trois syllabes, parce qu'ils peuvent être paroxytons ou proparoxytons, que sur les autres. Et ça se voit dans beaucoup de manuscrits. On dit souvent que l'accent c'était pour la liturgie, on peut le trouver dans d'autres textes, mais ça peut faire une différence. Les passages destinés à être lus, eh bien, il vient un jour, un des lecteurs qui, préparant sa lecture, se dit: mais est-ce que je ne vais pas me tromper sur ce mot-là? Comme ça peut nous arriver à nous quand on met l'accent et qu'on le sait très bien en théorie, mais que quand il faut le dire dans la phrase, on peut se tromper, n'est-ce pas? Et donc, il prépare sa lecture en indiquant l'accent. Et ça, on l'a, je ne sais pas si c'est dans ce manuscrit, mais on l'a de temps en temps dans les manuscrits.
Les accents ne sont pas marqués dans ce manuscrit. Par contre, le texte est divisé en 9 leçons.
Cette 9 leçons, donc, c'est la grande fête. Hein,
parce que... Oui, c'est la grande fête.
Les mots sont séparés dans le manuscrit, oui.
Oui, ils sont séparés.
L'exercice de la distinction, il fallait prendre. C'est jusqu'au 6e, 7e siècle, c'est ce qui explique que le malheureux lecteur d'ailleurs de toi, à mon avis, se soit planté. Tu sais, quand il est invité à lire à pied levé, quand il regardait tout le monde à tout le monde, c'est parce qu'il parlait de gascon, je ne sais pas pourquoi c'est passé. C'est qu'il n'était pas prêt. Et qu'il a dû sans doute se tromper dans la coupe du monde.
Avec la scripture en témoin.
Voilà. On va être à l'heure, quand même. Mm-hmm.
Mais bon. On a encore une petite minute.
C'est vous, bonjour. Deux
minutes. Oui, alors, d'en revenir un peu plus avec l'accent strophe 2 maintenant.
Je reviens. Ah oui, du verbe, non, mais ça, je ne l'ai pas. Avec quel accent?
Une tentative de romanisation pour nous faire sentir cette.
Je ne vais pas.
Je ne suis pas sûre que la délimitation entre les pieds ait tellement d'importance que ça.
Oh, mais je ne sais pas, moi j'ai mis simplement les syllabes toniques et les syllabes atones. Et on voit que l'attaque est partout tonique. Et vous voyez, si vous prononcez tous les ronds tolerant, vous voyez, c'est pour moi la prononciation de voix de l'époque. Hein.
Oui.
Et de même que miserante en ancien français, c'est du mistrant. Vous savez tout ça. Donc on a donc tolerant mais une coste. Mistrant en Eva. Mistrant en Eva. Regardez, ça marche bien. Mistrant en Eva. Mistrant, c'est miserante. Il est devenu elle et Eva reste Eva en général. Ou Eve, on ne sait pas. Donc mistrant en Eva. Vous voyez, tolerant. Tolerant, je relève le défi. Tolerant, mais j'ai mal lu. Tolerant, mais une costa, dans deux accents, là, et non, 3, et Miss Fontaine et Va de Zaxa. Mais il faut que je m'entraîne un peu. Là. Écoutez, pour le récital, je ne suis pas tout à fait prêt.
Je suis un peu moins d'accord sur certains accents sur
votre. Ce sont les accents étymologiques.
Alors, pendant la strophe 4.
Strophe 4, oui. Oui, de uno ligno.
Oui, mais où est l'accent?
Ligno, l'ignum, l'ignum.
Bon, il est sur où?
Il est sur lui.
Uno, l'ignum.
Oh, je ne sais pas.
Ouais, vous avez. Uno, je ne suis pas d'accord.
Non, mais ceci dit. Ah, oui. Non, moi je pense que D est accentué ici. Uno, non. Ligno, oui. Mais après, un peu. Vous voyez, ligno, c'est l'accent étymologique. Gusta, oui. Parce que c'est D. Il faudrait que je le transpose. En plus, il faudrait venir avec la prononciation réelle du 8e siècle.
Vous ne pouvez pas accentuer D.
Pourquoi? Il est en début, mais si. Monsieur,
non, monsieur. Vous voulez accentuer parce qu'il y a un début, mais c'est comme raison.
D'abord, pourquoi on ne peut pas l'accentuer? Monsieur que si. Il n'y a pas d'accent. Jamais. Et là, il est.
C'est pas un accent.
Non, non, il n'est pas, il est sur le ou.
C'est pas un accent.
Ça veut dire bon, puisque la A était l'idée. D'où, non, c'est pas
un accent. Est-ce qu'il prononce ça? C'est pas un accent, c'est un dictus.
Il prononce. Non, c'est un dictus, non.
C'est un dictus, alors,
c'est un dictus. Non, non. Parce que si c'est un dictus, ça veut dire qu'il y aurait quelqu'un extérieur qui marquerait le rythme. Non, non, bah, c'est
pas besoin de quelqu'un à l'extérieur, moi il suffit de l'avoir dans la tête. Non. Parce qu'il y a un rythme quand même, non?
Oui,
en fait, je ne sais pas.
Moi, moi je te
peux demander à Marie-France.
Après.
Surtout pas,
mamie. Non. Après, c'est, en plus, il y a écrit uno, mais bon, c'est peut-être déjà une. Moi je pensais une, l'aigne, on est Gustavi. C'est pas Gustavi, c'est Gustai. Prononcez Gustai.
D'uno legno.
Voilà, legno. Mais vous pouvez dire d'uno legno, ça va aussi, ça va.
Voilà, là, ça va, alors, donc l'accent alors, sur le U.
Non, mais attends. Tu veux me chipoter techniquement, je vais te demander, Jean, au vers 2 de ton texte, est-ce que tu fais l'élision de Molto et d'Admiramine, parce que je n'avais pas le scandé sur le sol. Ah, tiens.
Ah oui, Molto Admiramine.
C'est plus une Molto Admiramine.
Oui.
D'accord. Bon, non, mais on entend bien la musique du texte. D'uno legno, ce que vous prononcez, d'uno, d'uno, ça. D'une. Moi, je dirais d'une.
C'est ce que je veux dire, mais dans d'autres cas. Alors, si je suis redescendant, on va pas le faire parce que ça pourrait être long. Mais à ce moment-là, être médium, pareil.
Attends, est-ce que c'est...
Sur 5 bis.
Je sais plus.
5 bis.
Ah oui. Quand, si le premier être du verbe est accentué et le dernier ne l'est pas,
attends.
C'est que...
Attends, où ça, où ça?
Alors, il y a 2 sur 5. Alors, j'appelle le suivant 5 bis.
Ah oui, c'est la fin, le rythme change à la fin. Alors, fekit kelum, fekit. Alors, voyez, en plus, c'est rigolo parce que fekit, c'est feu dis, ciel, feu dis, terre. On, ça passe très bien directement en proto-français.
Ça, d'accord.
Ça vous plaît quand même.
Oui. Bon. Après, c'est le seul qui ne plaît pas.
Le second à cause du fait. Oui, mais l'un est accentué, puis l'autre, il ne l'est pas à la fin.
Parce que c'est. Je l'ai. Ceci dit, écoutez. Le Oui, mais alors, mettez quoi? Eti, eten. Alors, en plus, eten. Alors, meglio est prononcé mi. Prononcez pas, mais meglio ou mei. La prononciation mei. En faisant un peu historique.
Oui.
Attends.
Ça change rien. Non,
ça change rien. Ça change rien. Mais je veux dire que vous.
Moi, rien. Je ne suis pas professeur de chant.
Mettre là l'accent uniquement étymologique, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous mettez l'accent du branle. Du branle qui est.
Pourquoi? Oh là, je m'en garderai.
Le rythme, ben, je le constate. Je le constate. Là, vous avez triché.
Je n'ai pas triché, j'ai cherché à comprendre ce qui n'est pas quand même évident. Mais de toute façon, vous avez, malgré les questions perfides de mon voisin, je suis prêt à avouer mes fautes. J'ai essayé de comprendre ce vers, et surtout à la lumière de son rapport à la langue parlée de l'époque. Voilà.
Alors, quelle est la légitimité de vouloir s'accrocher absolument à des accents étymologiques?
C'est parce que dans la mesure où quand on étudie l'évolution du vers latin classique au vers latin tardif, on ne part que de la phonologie de la langue.
Oui,
après, quand ils le chanteront, ils peuvent mettre les accents où ils veulent.
C'est-à-dire que soit les mots russes sont les mots comme ils sont indiqués.
Non, il y a des endroits où il n'y a pas le choix. Non, non. Après, on peut récapituler si vous voulez. Il y a des endroits où vous n'avez pas le choix. Après le restant, vous ferez un peu. Attends, il faut que je retrouve mon passage. Il y a des endroits où on n'a pas le choix. Arbor, ça ne peut être qu'Arbor. Natus, ça ne peut être que Natus. Paradiso, ça ne peut être que. C'est ce qu'il a donné par vie, Paradiso. Hein, ça veut dire Paradiso. Utinam, je ne sais pas, parce que le mot était mort. Mais par contre, si cassette, je suis sûr que c'est. Voyez, rien que le premier vers, il n'y a pas le choix. C'est Arbor, Natus in Paradiso, Utinam si cassette. Voilà. Ça.
Moi, je pense qu'une fois qu'un branle est donné, on le suit et on va remettre des accents qui ne sont pas étudiés.
Ça, moi, je ne sais pas. C'est au-delà de mes compétences. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez là, sous les yeux, une poésie de type, donc effectivement, romano-germanique, avec un rythme et l'accent fort, et qui est le prototype de ce qu'on va avoir directement avec la vie et tout ça. C'est ça qui est intéressant. Après, le branle. Ce branle ne m'ébranlera pas.
Bon, on va peut-être arrêter là pour ce moment.
Rester là.